Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Merci à vous d'écouter Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamar, toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. Et puis à partir de 19h20, ce sera votre débat du Club des idées. Et ce soir, l'Amérique selon Joe Biden. À la veille de son 100e jour à la Maison Blanche, le président américain prononce ce soir un grand discours de politique générale. Un président révolutionnaire, disent certains, qui a déjà commencé à mettre en place des mesures historiques. Nos spécialistes décrypteront pour nous ces 100 premiers jours d'une présidence hyperactive. Qui l'eût cru ? Juste avant, nous accueillerons Jérôme Gavaudan, le président du Conseil national du barreau, qui nous livrera sa carte blanche. Il reviendra sur le projet de loi sur le renseignement et la lutte antiterroriste présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis juste avant 20h, on se replongera dans les archives d'Europe 1 jusqu'à ce jour de 1969. 28 avril, le général de Gaulle assume avec panache son échec au référendum et annonce sa démission. Et d'abord le point sur l'info avec vous, Christophe Lamar. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
Malheureusement, avec le confinement, on aurait bien aimé être dans les stades, mais on nous interdit, alors il faut bien être quelque part pour pouvoir les supporter.
Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. PSG Manchester City ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Faute de pouvoir entrer au stade, les supporters se sont installés devant l'hôtel des joueurs parisiens.
Et nous serons au Parc des Princes, évidemment, où nous attend Julien Froment. On analysera aussi les forces en présence, côté parisien et côté mancunien.
L'exécutif prépare la sortie du confinement. Jean Castex en a esquissé les contours tout à l'heure. Emmanuel Macron s'adressera aux Français vendredi.
Le médiateur de l'énergie déclare la guerre au démarchage abusif. Il porte plainte contre le fournisseur de gaz et d'électricité Eni.
Une ce qui finit par donner de le tournis, celle des diplomates entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Les ambassadeurs sont renvoyés par centaines, du jamais vu depuis la guerre froide. L'œil de notre spécialiste des questions internationales, Didier François, dans ce journal. Et puis, il a 30 ans, mais sa lecture fait encore froid dans le dos. American Psycho, le roman phare de Bret Easton Ellis, va être adapté en série à la télé.
La météo, Anissa Haddadi, on vous retrouve demain, fraîcheur et humidité.
Oui, alors on va vraiment avoir deux ambiances bien différentes demain. De la fraîcheur et de l'humidité, vous le disiez Isabelle, pour la moitié sud, où là la journée est presque automnale, et beaucoup plus printanière sur la moitié nord, avec tout de même des températures en baisse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Allez, on va oublier un peu la crise pendant 90 minutes ce soir. Le spectacle sera au Parc des Princes, même sans public. PSG face à Manchester City, c'est une belle affiche pour une demi-finale de Ligue des Champions. On retrouve tout de suite Marine Proté en direct devant l'hôtel des joueurs du PSG. C'est important. Et s'il n'y a pas de supporters au stade ce soir, Marine, il y en a plusieurs centaines sous les fenêtres des Parisiens qui s'apprêtent à monter dans le car.
Oui, des supporters pas du tout freinés par la pluie. Hein. Ils crient, chantent et lancent des fumigènes depuis près de 2 heures maintenant. Dans cette foule compacte, beaucoup d'ultras comme Thierry, 51 ans. Il est venu avec toute la panoplie du fan fidèle, le drapeau du PSG, le maillot sur les épaules et l'écharpe bleue et rouge autour du cou.
J'ai un fan de Paris depuis 1970, sinon 70. Malheureusement, avec le confinement, on aurait bien aimé être dans les stades, mais on nous interdit, alors il faut bien être quelque part pour pouvoir les supporter.
Et quelque part, c'est-à-dire à quelques mètres seulement de l'entrée de l'hôtel, d'où partiront les joueurs en bus dans quelques minutes pour le Parc des Princes. Et c'est précisément ici, devant cette entrée, que Adam, 10 ans, et sa maman ont croisé leur star ce midi.
Alors on est arrivé à 13h. Il a vu des joueurs qui sont arrivés à Anaïs ce matin en voiture.
J'ai vu plusieurs joueurs. Par exemple, Verratti m'a fait coucou. Après, il y avait Mbappé aussi qu'on a vu. Il a fait coucou. Il y avait plein d'autres joueurs. Je suis content.
Et content, il le sera encore plus si Paris gagne ce soir. Et en cas de victoire, justement, les ultras prévoient de crier aux fenêtres, étendre des drapeaux sur les balcons, mais rester chez eux pour respecter le couvre-feu.
Beaucoup d'émotions pour ces jeunes supporters, effectivement. Marine Proté, devant l'hôtel des joueurs du PSG. Alors ça, c'est pour l'ambiance d'avant-match. On a envie de savoir maintenant, Christophe, qui de Paris ou de Manchester est le plus fort?
Ouais, alors ce qui est certain, c'est que ces deux formations alignent une multitude de stars et de joueurs de très haut niveau. Il y a 5 ans, Paris avait été éliminé de cette Ligue des Champions par ce même Manchester, on parle de City. Mais depuis, les Parisiens ont progressé, Julien Froment.
Ouais, exactement, ce n'est plus tout à fait le même Paris Saint-Germain depuis ce fameux match de 2016. Déjà, il y a le duo Mbappé-Neymar. Paris a surtout atteint l'an passé la finale de la Ligue des Champions et c'est assez rare pour être souligné, mais pour la première fois, quasiment dans un match couperet, toutes les stars sont là et en pleine forme. Le gardien de but, Keylor Navas, le capitaine Marquinhos, Neymar lui aussi est dans le 11 de départ et l'entraîneur Mauricio Pochettino pourra compter aussi sur un banc de touche de qualité avec comme cartouche offensive l'Argentin Icardi ou encore l'Italien Kean, une équipe du PSG qui, une fois de plus aussi, pourra compter sur le soutien de ses supporters qui ont réalisé un magnifique tifo monumental dans le Parc des Princes avec ce message: une région, une ville, tous derrière vous, en route pour le triomphe final.
Bon, pourtant Julien, vous nous dites que Paris devrait quand même se méfier de Manchester, pourquoi ?
Effectivement, car eh bien, cette équipe de Manchester City a aussi beaucoup progressé de son côté. Pep Guardiola, l'entraîneur catalan, après des années d'échecs, semble avoir enfin trouvé la bonne formule. Son équipe marque beaucoup de buts, ça c'est pas nouveau. Ce qui l'est plus, c'est qu'elle n'en encaisse quasiment pas. C'est la meilleure défense de la Ligue des Champions cette saison, mais Manchester City n'a joué que face à des seconds couteaux. Marseille, Porto, Kazan, Mönchengladbach ou encore Dortmund. Là, les Anglais affrontent le Paris Saint-Germain, une des meilleures attaques de cette Coupe d'Europe.
Eh bien, merci beaucoup Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Vous étiez en direct devant le Parc des Princes. Vous allez nous faire vivre évidemment cette rencontre ce soir. PSG Manchester City, le coup d'envoi c'est à 21h. Et évidemment, nous avons une émission spéciale Ligue des Champions sur Europe 1 dès 20h et jusqu'à 23h30 avec Lionel Rousseau.
On ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, mais Emmanuel Macron s'adressera aux Français vendredi.
Oui, le président devrait présenter une stratégie de sortie progressive et phasée. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé cet après-midi au cours d'une conférence de presse post-Conseil des ministres. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments concrets à cette heure, mais Emmanuel Macron a quand même semé quelques indices sur le calendrier.
Trois phases. La première début mai, la seconde le 15 mai et la dernière en juin. Alors, ce sera le 15 ou le 30. Impossible décalage de l'heure du couvre-feu et une ouverture des terrasses de restaurants, des lieux culturels en fonction, c'est important, de la circulation du virus dans le département. Le chef de l'État qui n'est pas très favorable pour l'instant à un déconfinement région par région.
Et à propos du couvre-feu, le régime de sortie de crise sanitaire sera mis en place début juin, s'il est voté par le Parlement, et son adoption pourrait entraîner la suppression justement du couvre-feu dès le 2 juin, d'après Jean Castex.
On y a tous eu droit au moins une fois, ces appels téléphoniques pour nous proposer des tarifs ou des formules pour payer l'électricité ou bien le gaz moins cher. Et ça peut parfois tourner à l'arnaque.
Effectivement, c'est aussi un peu parfois du harcèlement et dans certains cas de démarchage abusif. C'est une information Europe 1. Le médiateur de l'énergie vient de mettre le holà, cette autorité indépendante chargée de résoudre les litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'énergie, porte plainte contre l'Italien Eni Modecamp.
En fait, il y a eu le cas de trop qui a déclenché la colère du médiateur de l'énergie, celui de Blandine, 98 ans, à qui Eni a réclamé la somme de 1314 euros pour des factures de gaz impayées. Mais voilà, Blandine n'habite plus dans sa maison et surtout, elle n'a jamais signé de contrat avec cette entreprise. C'est son neveu, Marc, qui a tenté de résoudre le litige avec le fournisseur.
On me dit, mais oui, il y a eu un contrat de signé. J'ai dit, mais par qui? À quelle date? On me communique une adresse mail, un numéro de portable inconnu. Et là, il y a eu plusieurs échanges de mails avec Eni. L'affaire a débuté comme ça.
Et le cas de Blandine n'est pas isolé. Rien qu'en 2020, écoutez bien, 829 litiges avec le fournisseur Eni ont été rapportés au médiateur de l'énergie, Olivier Chaland-Belval. Ce dernier dénonce un double discours de la part du fournisseur qui assure améliorer ses pratiques mais continue à être régulièrement cité dans des cas de démarchage abusif. Eni, que nous avons contacté, indique pour sa part avoir porté plainte contre X, en précisant que la personne à l'origine du contrat frauduleux est un prestataire extérieur à l'entreprise.
Maud Descendu, service économie d'Europe 1.
Cinq jours après l'attentat de Rambouillet, le Conseil des ministres examinait ce matin une nouvelle loi antiterroriste. C'est la 9e en 6 ans.
Les détenus condamnés pour terrorisme pourront faire l'objet d'une surveillance judiciaire jusqu'à 5 ans après leur sortie de prison. Le projet prévoit également de renforcer la surveillance d'Internet par des algorithmes afin de repérer les personnes radicalisées et isolées.
Les places boursières baignent en ce moment dans une douce euphorie. Pourtant, certains investisseurs redoutent les conséquences de la débâcle d'Archegos.
La faillite du fonds d'investissement Archegos a déjà provoqué près de 10 milliards de dollars de pertes aux grandes banques, dont plus de 5 milliards rien que pour le Crédit Suisse. La liste menace de s'allonger et fait craindre un effet domino dont on ne connaît pas encore l'issue. Archegos proposait des produits financiers complexes et à haut rendement, mais au final très risqués.
On a appris aujourd'hui la mort d'un astronaute qui n'a pas marché sur la Lune, mais qui a vu Neil Armstrong faire ce grand pas pour l'humanité. Michael Collins a été emporté par un cancer.
Oui, Michael Collins était membre de la mission Apollo et en orbite pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulaient le sol lunaire. Il avait 90 ans.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec ce bras de fer entre l'Occident et la Russie qui continue et ce sont les diplomates qui en font les frais.
Et puis on parlera d'un livre qui va faire l'objet d'une adaptation, American Psycho, Bret Easton Ellis.
A tout de suite. 19h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre et on se croirait revenu au plus fort de la guerre froide et de sa grande valse des espions. Moscou a expulsé aujourd'hui 7 diplomates, membres de 4 pays de l'Union européenne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Cette nouvelle expulsion est en fait le dernier épisode d'un véritable bras de fer que se livrent l'Occident et la Russie depuis maintenant plusieurs mois.
Oui, alors et qui commence à prendre des proportions tout à fait hors normes, parce que si on on additionne toutes les expulsions réalisées par les deux camps depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, eh bien on atteint un nombre de diplomates déclarés persona non grata qui est supérieur à celui qui a eu lieu pendant la période soviétique. Et ce qui dit quand même beaucoup de choses sur le degré de tension dans les relations entre l'Occident et le Kremlin. Le problème étant justement que Vladimir Poutine lui-même est issu des services extérieurs du KGB et qu'on constate que depuis qu'il a pris les rênes de la Russie, eh bien ses organes de sécurité ont adopté des modes d'action beaucoup plus offensifs qui ne se limitent plus au simple espionnage, disons, à l'ancienne. Il mène désormais des campagnes actives d'influence qui cherchent à peser, par exemple, sur les résultats des élections dans les démocraties occidentales, comme ils l'ont fait en France ou aux États-Unis lors des derniers scrutins présidentiels. Il se livre à des attaques informatiques sur les réseaux étatiques ou industriels et il n'hésite plus à assassiner leurs opposants avec des composants radioactifs ou des poisons militaires, comme ils l'ont fait à Londres avec le polonium dans l'affaire Litvinenko ou avec du Novichok dans l'affaire Skirpal, ce qui a un peu provoqué le réveil des Occidentaux qui ont réalisé qu'il n'était plus possible de laisser les agents russes agir avec un tel mépris des règles de bienséance.
D'où cette escalade donc dans les expulsions, Didier, et les mesures de représailles.
Alors absolument, donc l'expulsion de ces 7 diplomates européens par la Russie s'inscrit d'ailleurs totalement dans cette logique, puisque une enquête bouclée la semaine dernière en République tchèque a révélé que l'explosion qui avait fait 2 morts dans un dépôt de munitions, une ville de Verbiče dans l'est du pays en 2014, était en fait un sabotage réalisé par des agents du renseignement militaire russe, le GRU. Donc évidemment, expulsion de 18 agents russes sous couverture diplomatique à Bratislava, mesure de réciprocité de la Russie qui prie 20 diplomates tchèques de partir de Moscou, et voilà, c'est reparti. Et là, solidarité avec la République tchèque de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, la Slovaquie, qui expulse à leur tour des agents russes, et c'est ce qui explique que ça leur a valu aujourd'hui de devoir rapatrier à leur tour cette membre de le personnel diplomatique. Je me tiens par la barbichette. C'est pas fini cette affaire.
L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales, c'est tous les soirs dans ce journal de 19h. Didier, qui a incontestablement le sens du récit, eh bien, il y a un romancier qui possède également ce don. Il s'appelle comment, Christophe ?
Bret Easton Ellis.
Évidemment.
Il publiait il y a tout juste 30 ans American Psycho, roman sur la folie des hommes et d'un système âpre au gain. Sa vacuité aussi. Une société de production vient d'annoncer qu'elle allait l'adapter en série. Le roman avait déjà, attention, été adapté au cinéma avec Christian Bale. D'ailleurs, ça l'avait révélé dans le rôle-titre en 2000. Et cette œuvre est devenue culte pour toute une génération, Nicolas Carreau.
Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour.
Patrick Bateman n'aime rien ni personne à part lui-même, les costumes de marque, les cosmétiques rajeunissantes et l'argent, bien sûr. Le jour, il est un golden boy successful et méprisant de Wall Street, tiré à 4 épingles. La nuit, il enfile un tablier en plastique et devient un psychopathe sadique qui assassine à coups de hache.
Je risque d'avoir du mal à me contrôler si vous restez. Un grand malheur pourrait arriver.
Portrait d'une époque, description de la folie, de la vanité, dénonciation de la violence, des comportements en milieu privilégié, le roman et le film ont échappé de peu à la censure à l'époque. Ils bousculent et dérangent toujours autant aujourd'hui. C'est la marque des chefs-d'œuvre.
Je me sens au bord de la folie meurtrière. J'ai l'impression que ma santé mentale est sur le point de basculer.
American Psycho, effectivement, le film m'était très mal à l'aise. Je ne parle même pas du roman que j'ai lu.
Il paraît que c'est pire encore, oui.
Ah oui, c'est pire, bah forcément, parce que là, vous faites appel à votre imaginaire. L'image s'impose à vous, tandis que l'imaginaire, c'est vous qui le créez. C'est
comme
toute la différence.
C'est beau ce que vous dites. Merci Christophe Lamar. Ben pour le coup, on vous retrouvera demain.
Ah, je peux revenir
à
Je peux
demain.
Rester Merci.
La météo, Anissa Haddadi. Un temps qui sera agité demain sur la moitié sud, en tout cas.
Oui, nous sommes en plein cœur d'un système dépressionnaire en ce moment. C'est pour ça que le temps change et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment un temps digne d'une fin avril. Alors Isabelle, il faut savoir qu'on a une dépression qui est en train de s'en aller vers l'Allemagne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais finalement, on en a une autre qui est en train d'arriver par l'Espagne. Et du coup, c'est pour ça que demain, vous le disiez, le temps sera beaucoup plus agité sur la moitié sud. Donc en gros, pour résumer, des Cévennes jusqu'aux Alpes, en passant par la Provence, le sud du Massif central ou encore la vallée du Rhône, et bien dans toutes ces régions, le ciel est très couvert avec des pluies toute la journée, parfois des pluies soutenues et orageuses. Sur la moitié nord du pays, c'est la Loire qui fait la frontière, donc toutes les régions au-dessus de la Loire. Là, c'est un temps plus sec, plus calme. Alors, c'est pas du grand soleil, mais on aura quand même un temps qui sera partagé entre nuages et éclaircies. Les températures sont fraîches demain matin. Et puis, l'après-midi, elles sont 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. On aura donc 4 à 12 degrés du nord au sud demain matin et seulement 10 degrés à Dunkerque demain après-midi, 10 à Lille, 14 à La Rochelle et Saint-Étienne, 16 à Paris, 17 à Bordeaux et 20 degrés pour Bastia.
Ça, c'est pour demain, Anissa. Mais ce soir, au-dessus du Parc des Princes, il va faire quel temps ? Dites-moi.
Alors, j'ai bien regardé. On aura un temps calme. Là, il vient de pleuvoir sur Paris. Ça va se calmer. Le ciel sera dégagé. Et au moment du coup d'envoi, on aura 13 degrés au Parc des Princes. Un temps idéal pour foncer vers le but.
On y va. Et je vous souhaite une excellente soirée, Faute. Merci,
bonne soirée,
Anissa. À demain. 19h16 sur Europe 1. Dans un instant, votre grand débat sur Europe 1. Joe Biden, ce président qui nous surprend, ça va faire 100 jours qu'il est à la Maison Blanche. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Jérôme Gavaudan qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 avocats de France. Et vous avez envie, ce soir, sur Europe 1, de donner un coup de griffe à propos de la nouvelle loi sur le renseignement et la lutte antiterroriste. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait ?
D'abord, la première des choses qu'il faut dire, c'est que le terrorisme est une plaie et qu'il gangrène effectivement la nation et la République. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut lutter de toutes nos forces républicaine contre le terrorisme. La deuxième idée, c'est que c'est un principe que j'aimerais rappeler ce soir sur la loi, et les avocats y sont attachés. L'idée, c'est que la loi ne sauve pas de tout et que la loi doit être votée avec parcimonie. Et nous sommes dans un contexte général, nous le voyons sur d'autres sujets, où dès qu'il y a de l'émotion, ça mérite d'être rappelé, on le dit souvent, mais ça mérite d'être rappelé, dès qu'il y a de l'émotion, souvent justifiée, l'opinion publique réagit et les gouvernants décident de réagir eux aussi dans l'urgence en édictant, en faisant voter, en décidant un certain nombre de lois nouvelles alors que l'arsenal législatif existe. La valeur et la force de la loi, c'est sa parcimonie, ça vient des constituants, ça vient de la Révolution française. Et il faut que les citoyens sachent et sachent à nouveau, et que ça doit être dit, que la loi ne résout pas tout et que le législateur effectivement grandit en faisant des lois de manière parcimonieuse, de manière technique, de manière efficace. Donc, première idée, le terrorisme, ça ne va pas. Deuxième idée, la loi doit être efficace.
Trop de lois. Alors, le gouvernement, dans ce texte, prévoit de pérenniser, Jérôme Gavaudan, la surveillance par algorithme. Et je crois que vous êtes particulièrement critique sur ce point.
Tout à fait. Les lois qui se cumulent, effectivement, viennent atteindre, il faut aussi que les citoyens le sachent, les libertés individuelles et fondamentales. Ce n'est pas neutre. Nous vivons depuis des mois dans des états d'urgence et de fait, la tendance du législateur est de maintenir des lois qui sont prises dans l'émotion, dans le cadre de circonstances particulières, et de maintenir des lois qui sont très restrictives. L'importance en matière d'algorithme est la suivante. Dans un contexte où, en matière de terrorisme, nous sommes à 19 lois sur une vingtaine d'années, c'est-à-dire que l'arsenal législatif existe beaucoup. La question doit être posée en ce qui concerne la surveillance. Et on entend que les policiers aient besoin d'outils nécessaires, et notamment d'outils légaux et législatifs. Mais l'évolution et le traitement des données personnelles par algorithme est un danger pour chacun d'entre nous. Est un danger, il faut l'entendre, pour les citoyens normaux, pour les citoyens qui n'ont rien à se reprocher. Et donc, de texte en texte, on avance sur la création d'algorithmes, c'est-à-dire sans intervention humaine, qui viennent non seulement pister, surveiller le citoyen, mais qui sont de plus en plus intrusifs. Et donc, le projet de loi, tel que les prémices, tel qu'il est présenté au Conseil des ministres, vont une fois de plus dans ce sens, dans l'intrusion. On va d'abord contrôler, c'était la loi, le texte actuel, les adresses de chacun d'entre nous. On contrôle ensuite le temps passé sur quel site, et désormais, on va pouvoir accéder directement à un certain nombre de sites pour traiter des informations qui vous sont personnelles et qui peuvent aboutir effectivement à des restrictions graves. Ce qui est important de savoir, c'est que la loi ne suffit pas. Bon. Les libertés individuelles sont importantes et la question que nous devrions nous poser est de savoir s'il ne faut pas plutôt donner plus de moyens et de meilleurs moyens aux policiers qui font un travail remarquable, aux magistrats qui doivent traiter dans l'indépendance. Plus de moyens, moins de lois.
Merci beaucoup. On a bien compris qu'elle ne vous plaît pas trop, cette loi. Merci beaucoup. C'était la carte blanche de Jérôme Gavaudan ce soir sur Europe 1 en direct.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1.
Isabelle Millet.
Dans un instant, Joe Biden, un président pas si endormi que ça. À tout de suite. 19h22, c'est l'heure de notre grand débat sur Europe 1 et Joe Biden prononce ce soir son premier discours de politique générale devant le Congrès, peu avant la date symbolique de ses 100 premiers jours de mandat. Et c'est l'occasion pour nous, ce soir sur Europe 1, de dresser un premier bilan de ses 100 jours de présidence et de nous poser cette question. L'Amérique est-elle en passe d'être guérie? Joe Biden peut-il être celui qui va faire oublier les vieilles fractures et les cicatrices? Avec moi, pour en parler, des spécialistes des États-Unis, bien sûr, Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2, spécialiste des États-Unis, auteur de Joe Biden, biographie aux éditions du Nouveau Monde.
Bonsoir.
Bonsoir. Sonia Dridi, qui est en ligne avec nous depuis Washington. Sonia, qui a écrit Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Et Yannick Mireur, politologue, également spécialiste des USA, forcément, et fondateur de Nexus, qui est un forum, une plateforme d'échange économique, c'est ça ?
De rencontres économiques.
Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup, en tout cas, de m'accompagner pour ce débat. Alors déjà, sur la forme, est-ce qu'on peut dire, pour commencer, qu'il nous surprend quand même, Joe Biden, parce que déjà, il a réussi à battre Trump, c'était pas gagné. Et puis, on avait l'image d'un homme, certes, attachant et empathique, mais un peu en fin de parcours, sans être désobligeant. Trump l'avait surnommé, en sens souvient Sleepy Joe. En fait, il n'a rien d'endormi. On découvre un président qui se bat sur tous les fronts, Jean-Éric Brana.
Oui, alors on avait l'image d'un Sleepy Joe parce que Donald Trump nous avait dit que c'était un Sleepy Joe. Et en réalité, on ne s'est pas intéressé plus que ça au personnage. D'abord parce que personne n'y croyait. Tout le monde croyait que Bernie Sanders allait l'emporter chez les démocrates. Et quand on a compris que c'était Joe Biden, eh bien, il y avait la Covid. Donc, personne n'a été creusé dans ce portrait. Or, rendez-vous compte, c'est ce qui est arrivé toute la vie à Joe Biden. Toute sa vie, il était en arrière, alors que c'est un gars très sérieux, qui a toujours travaillé, qui a occupé des postes prestigieux, 44 ans de pouvoir quand même, avec président de la commission justice du Sénat, de la des affaires étrangères du Sénat, deux mandats de vice-président. Mais tout ça, c'était passé à l'as, donc on a été resté à Sleepy Joe. Et effectivement, les Républicains avaient commencé à s'inquiéter pendant la campagne en disant « il faut arrêter avec ce sobriquet, parce que s'il est élu à ce moment-là, ça va faire mal, parce que nous, on le connaît, on l'a pratiqué au Congrès, c'est exactement ce qui s'est passé une fois qu'il est arrivé au pouvoir ». Il a fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire premier de la classe. Et donc, il travaille, il agit, il ne parle pas beaucoup, mais il bosse. Et le Sleepy Joe s'est envolé.
Alors, personne ne s'était intéressé à lui, dites-vous, sauf vous, visiblement, parce que vous aviez écrit quand même un livre, sur lui. Vous également, Sonia Dridi, qui êtes en direct de Washington. Vous trouvez, Sonia, qu'on a sous-estimé, en tout cas nous, ici en France, on a sous-estimé Joe Biden ?
Oui, je pense, et je pense que, comme le disait Jean-Éric Brana, il a été caricaturé par Donald Trump et par les Républicains en général. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un homme politique affaibli, notamment physiquement, mais et c'est vrai qu'on l'a aussi présenté comme un produit de l'establishment pas très inspirant, ce qu'il est en partie, mais tout au long de sa carrière politique, il a, je pense, souvent su saisir l'air du temps. Il a été quand même l'un des premiers, lorsqu'il était élu au sénateur, à proposer, par exemple, une loi sur le changement climatique dans les années 80, à proposer une loi contre la violence faite aux femmes dans les années 90. Et puis, il a aussi, il s'est adapté finalement à son temps, parce qu'avant, il était, par exemple, personnellement opposé à l'avortement ou encore au mariage gay. Sous Obama, il s'est prononcé en faveur du mariage gay. Donc, finalement, aujourd'hui, il s'adapte à l'ère du temps. Il a été poussé par les progressistes à faire des propositions très ambitieuses lors de sa campagne. Et aujourd'hui, finalement, il les met très rapidement en œuvre. Alors, ces réformes ne vont pas forcément passer au Congrès, mais on sent qu'il y a cette volonté d'agir, de transformer en profondeur l'Amérique. Il cite souvent Franklin Delano Roosevelt, qui est l'un de ses modèles, dont il a le portrait dans le bureau ovale. Et je pense que c'est son but, c'est en fait de profiter des deux grandes crises que traverse l'Amérique, la crise sanitaire et la crise économique, de se saisir de ce contexte pour tenter de vraiment transformer le pays avec notamment un certain retour d'État-providence.
Alors justement, on va détailler tout ça ensemble, les points marquants déjà de ces 100 premiers jours de mandat. D'abord, ça n'est jamais facile d'arriver au pouvoir, ça l'est encore moins, vous l'avez rappelé, en pleine pandémie, surtout quand votre prédécesseur a dit que le Covid, c'était pas grave, que porter le masque, c'était pas utile. Sur ce front-là, en tout cas, Yannick Mireur, on peut dire qu'il s'en sort plutôt très bien, Joe Biden, hein, sur le front sanitaire.
Oui, d'ailleurs, c'est reconnu par une majorité de l'opinion américaine. Évidemment, vous imaginez plus les démocrates, un petit peu moins les indépendants et encore un petit peu moins les républicains. Mais malgré tout, ça fait une majorité de la nation sur ce point précis que vous soulevez. Sur les autres, sur les plans de relance, etc., c'est un peu plus contrasté. Mais globalement, il y a une approbation générale du pays parce qu'en effet, comme ça vient d'être dit de différentes manières, c'est un petit peu la... D'abord, c'est la décence, Joe Biden. C'est pas quelqu'un qui a appartenu à ce qu'on pourrait appeler une gauche caviar qui se pousse du col. Il a toujours été assez humble et il a toujours fait son train, même s'il n'a pas nécessairement brillé. Mais ça, c'est reconnu, il apaise énormément. Alors du coup, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien à raconter. Ce n'est pas comme les emballements avec Donald Trump.
Et c'est vrai que sur cette crise sanitaire, on avait aussi besoin d'un président qui apaise.
Qui apaise et qui rassure aussi, non seulement par son ton et sa personnalité, c'est une chose, mais aussi par la décision qu'il prend, c'est-à-dire l'organisation, j'allais quasiment dire militaire, en tous les cas à l'américaine, assez efficace.
200 millions d'injections, il est même allé au-delà de son objectif. Hein.
Il a battu son objectif et donc il y a une mobilisation, disons, de ce qui aurait dû être le cas précédemment, c'est-à-dire un plan d'action fédéral pour, combattre contre ce qui est. C'est-à-dire que le sujet n'est pas politisé. Là aussi, je pense que c'est une partie de la recette également, c'est-à-dire de revenir les pieds sur terre, de dire c'est simplement une épidémie, c'est une affaire médicale et sanitaire, on va la traiter comme telle. Ouais. Donc il n'y a pas de polémique à avoir sur le sujet, ça concerne absolument tout le monde. Ça aussi, c'était une façon très différente d'agir,
de s'exprimer
par rapport à son prédécesseur.
On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. Restez avec nous à l'écoute d'Europe 1. À tout de suite. 19h30, c'est la suite de votre débat sur Europe 1 consacré aux 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. Ce président qui surprend le monde un peu plus chaque jour, va-t-il réussir à libérer l'Amérique de ses vieux démons? Avec moi pour en parler, Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2, auteur de Joe Biden, biographie aux éditions du Nouveau Monde. Sonia Dridi, notre correspondante en ligne de Washington, qui a écrit Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Et Yannick Mereur, politologue, également spécialiste des États-Unis. Gaga, l'hymne national américain, le jour de l'investiture de Joe Biden, c'était magnifique. Lady Gaga soutient la première heure du président américain. Alors Joe Biden, on l'a vu, s'est très vite attelé à la crise sanitaire. Il s'est très vite également penché au chevet de cette Amérique qui souffre de la crise et qui a, il a jeté un peu à la rivière hein, l'orthodoxie budgétaire avec ce premier plan d'urgence. 1900 milliards de dollars pour venir en aide aux foyers américains touchés par cette crise. C'est vraiment un changement de doctrine, une conversion à l'État-providence, Jean-Éric Brana.
Oui et non, en réalité, l'État-providence, c'est un peu dans l'ADN des démocrates, donc il est dans la continuité de ce qu'ont toujours fait les démocrates. C'est vrai que cette fois-ci, ça va quand même très loin, mais la situation l'exigeait. Rappelons quand même que Donald Trump l'avait fait lui-même, hein, 3 900 milliards de dollars au mois de mars. Il y a eu un autre plan de 900 milliards de dollars au mois de novembre, et Biden avait demandé à ce qu'on le vote, même si tout le monde se battait, c'était pas assez, c'était trop. Il a dit, écoutez, votez celui-là rapidement, puisque tout le monde a l'air d'accord, et moi je rajouterai 1900 milliards de dollars. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a réussi rapidement à le voter, et c'était urgent, parce que les emplois américains en dépendent, parce que la sauvegarde des familles américaines en dépendait, parce que l'économie dans son ensemble, et la vaccination en dépendant, puisque ce plan finance également la vaccination. Il rajoute, il faut quand même le dire, un autre plan derrière sur les infrastructures qui vient compléter, même si Sonia Dridi l'a fait comprendre tout à l'heure, on ne sait pas si ça va aller très loin au Congrès, mais quand même, ça vient compléter, et c'est important pour soutenir l'ensemble de l'économie américaine, plus un autre plan qui va être annoncé ce soir, plan pour les familles qui lui ont encore moins de chances de passer, mais qui est original parce qu'il va y avoir 1000 milliards de dollars demandés au Congrès, plus 800 milliards de dollars en baisse d'impôts. On est sur des montants faramineux, effectivement, et Joe Biden est à la manœuvre avec tout cela. Alors, il a l'expérience. Hein. Souvenez-vous que quand il était vice-président de Barack Obama, il est arrivé avec lui à la Maison-Blanche pour trouver cette crise affreuse qu'il fallait résoudre et qui a empêché Barack Obama de gouverner comme il voulait, notamment d'amener cette société post-raciale qu'il avait promis au pays. Et Biden, qui a cette expérience-là aujourd'hui, sait bien qu'il faut mettre le paquet dès le départ pour pouvoir ensuite avoir une politique ambitieuse et sur, notamment en faveur des familles, comme il va le proposer
ce soir. Oui.
Sachant, je termine juste là-dessus, sachant, il a dit dans sa conférence de presse, qu'il sait que ça prendra du temps, certainement, les 4 ans de son mandat, voire plus.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il acte le retour de l'État au pays de l'individualisme forcené et du rejet des pouvoirs publics, Yannick Mereur?
Le retour de l'État
en s'attaquant au mot endémique de l'Amérique, en étant aux côtés des...
Évidemment, ça fonctionne par cycle. Il y a des flux, des ressacs dans ce genre de choses et ça dure sur des cycles de 20, 25, 30 ans. C'est générationnel. Et donc, le signal donné par M. Trump avec la baisse très importante, mais très positive pour l'économie américaine à court terme des impôts sur les sociétés, a quand même, si je puis dire, été un coup d'accélérateur assez fort pour l'économie. Parce que la crise sanitaire, c'est une chose, mais l'économie américaine n'avait pas de problème de chômage à ce moment-là. Donc les plans de relance, ça va au-delà de la situation sanitaire et ça veut réaxer, si je puis dire, l'économie et la société américaine. Et donc pour cela, en effet, il y a besoin d'une intervention publique. Lorsque Reagan avait été élu il y a peut-être quarantaine d'années maintenant, c'était parce que, sur un programme tout à fait différent, de respiration, d'oxygénation de la société, de l'initiative privée, parce que l'État était finalement, et les mécanismes d'intervention de l'État étaient épuisés, devenaient inefficaces. Donc on est là dans un cycle différent. On a lu pendant longtemps, pendant 25 ans, y compris sous Bill Clinton, un retrait de l'État, hein, la fin de l'interventionnisme, de l'étatisme, c'était le programme de Bill Clinton, ouais. Une croissance formidable, une transformation extraordinaire de l'économie américaine. Et puis forcément, tout ça, ça amène des dysfonctionnements, notamment sociaux. Alors ceux qui sont anciens, structurels, la communauté noire en particulier, qui c'est le sujet s'est enflammé récemment pour les raisons que vous savez.
On va y revenir,
ouais. Mais d'autres sujets aussi, d'inégalité de revenus. Et donc forcément, tout ceci amène un dernier point, l'intervention de l'État. Un dernier point sur l'Obamacare dont on avait parlé. Il va sans doute en reprendre quelques morceaux, j'imagine, Monsieur Biden.
Qui avait été supprimé par Donald Trump.
Mais ce n'est pas seulement du feel-good, ce n'est pas seulement du bon sentiment, c'est que le système de soins aux États-Unis est très inefficace. Quand vous avez 40 millions de personnes qui sont hors du système, ça coûte une fortune lorsqu'ils ont de véritables problèmes. Donc il y a aussi une question de bonne gestion de la santé des Américains.
Et il a
si
quand
vous
même
permettez juste
je vous en prie, allez-y.
Donald Trump n'a pas réussi à éliminer l'Obamacare à une voix près, celle de John McCain, je le rappelle.
Oui, c'est vrai. Vous avez
c'était
raison.
Le 28 juillet 2017. Et c'est le grand échec de Donald Trump qui n'en a plus jamais reparlé depuis.
C'est vrai. Alors, Joe Biden, il a fait sa campagne présidentielle beaucoup sur le thème de la réunification morale de l'Amérique. Il a joué à fond la diversité. Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Est-ce que, pour autant, aujourd'hui, les minorités se sentent mieux représentées aux États-Unis et mieux défendues aussi, parce que c'est important?
Oui, alors à un certain niveau, mais on est loin de ce que souhaitent encore une fois les progressistes du parti. C'est vrai que Joe Biden, qui pendant toute sa carrière politique finalement a souvent travaillé à plus d'égalité raciale, de justice sociale, il faut rappeler qu'avant d'être un homme politique, il a été avocat, il a fait le choix d'être avocat commis d'office, 90% de ses clients étaient afro-américains, il connaît très bien la communauté africaine-américaine, mais
et je pense qu'il a de latinos, de noirs, d'asiatiques dans les rouages du pouvoir.
Son administration, oui, il voulait une administration qui ressemble à l'Amérique. C'est l'administration la plus diverse de l'histoire des États-Unis. Donc il y a des symboles pour l'instant, il y a des avancées. Même c'est très important pour Joe Biden qui a beaucoup d'empathie, qui a, comme le disait Yannick tout à l'heure, beaucoup de décence. C'est un peu sa marque de fabrique, l'une de ses marques de fabrique. Eh bien, il a eu des mots, par exemple, très très forts pour la famille de George Floyd, donc dont le procès du policier qui l'a tué s'est déroulé il y a peu. Voilà, et bien il a dit il s'est prononcé sur le verdict sur ce qu'il jugeait de ce qu'il pensait devrait être le verdict avant même son annonce, en disant que selon lui les preuves contre Derek Chauvin étaient accablantes. Il a dit à la famille de George Floyd qu'il aimerait les prendre dans ses bras. Donc il a des mots forts, il a des actions très symboliques. Maintenant, beaucoup demandent plus, notamment une réforme de la police que, encore une fois, Joe Biden va tenter de faire passer au Congrès, mais qui sera certainement revue à minima. Mais en tout cas, il a réussi à apaiser un petit peu les choses et la gauche du parti va lui demander des comptes.
Ouais, est-ce que vous nous dites c'est beaucoup d'empathie, mais pas forcément de choses concrètes? Il avait promis, après la mort de George Floyd, de créer une commission nationale de surveillance de la police. On en est où de cette commission, Sonia?
Alors en tout cas, il y a pas encore beaucoup d'action parce que on est encore au début de son mandat et que là on va rentrer dans le dur et c'est là où les choses vont se compliquer. Il y a cette loi de George Floyd qui a été votée par la Chambre des représentants mais pas encore par le Sénat où les démocrates ont une très courte majorité. Il veut notamment réformer la police avec mettre fin à certaines techniques comme la technique d'étouffement, du profilage racial, etc. Mais ça, tout le monde sait que ça va être difficile à faire passer parce que les républicains sont encore très frileux à faire passer de telles réformes. Mais je pense que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la place de l'État, maintenant du contexte avec cette inégalité raciale. Je pense que c'est vrai que Joe Biden veut vraiment tenter d'améliorer la vie des Américains, veut aller au-delà des clivages. Et c'est ça, il essaie de rassembler l'Amérique. Il sait très bien que ça va être compliqué de faire passer certaines réformes au Congrès, mais il essaie vraiment avec des mesures économiques, avec des mesures sur les infrastructures qui seront encore une fois peut-être revues à la baisse, mais en tout cas d'améliorer le quotidien des Américains pour tenter d'apaiser un petit peu ce climat qui en effet est très tendu.
On va revenir avec vous dans un instant pour évoquer toujours ces 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison Blanche avec un autre dossier sur lequel il était très attendu, dossier sensible, celui de l'immigration. À tout de suite. Joe Biden prononce ce soir son premier discours de politique générale devant le Congrès, très important, juste avant ses 100 premiers jours de mandat à la Maison-Blanche. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan, toujours avec mes invités. Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2, auteur de Joe Biden, biographie aux éditions du Nouveau Monde. Sonia Dridi, qui a écrit Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Et Yannick Mirer, politologue, également spécialiste des États-Unis. Alors, on a déjà évoqué pas mal de dossiers, mais on n'a pas encore parlé celui très important, très attendu de l'immigration. Joe Biden avait prévu une politique migratoire plus humaine. Est-ce que c'est le cas, Jean-Éric Brana ?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire en 100 jours. Et ça, alors, on peut se dire, tiens, s'il dit ça, c'est qu'il a rien à dire. En réalité, il s'est déjà passé des choses. Et c'est vrai qu'il a, par exemple, abrogé une mesure de Donald Trump emblématique, hein, qui interdisait à certains ressortissants de pays d'origine musulmane de rentrer dans le pays. Donc ça, c'est enlevé. C'est vrai aussi qu'il a promis de régulariser ce qu'on appelle les Dreamers. Donc ce sont ces gens qui sont arrivés bébés aux États-Unis, qui n'ont plus d'attache dans un autre pays et qui ne connaissent que la civilisation américaine. Donc pourquoi les renvoyer ? C'était un vrai problème là aussi avec Donald Trump. C'est vrai aussi qu'il a annoncé que désormais l'Amérique était bienveillante et du coup beaucoup ont fait leur baluchon en partant du Guatemala, du Honduras et compagnie, direction la frontière. Et c'est bien ce que les Républicains lui reprochent aujourd'hui en disant bah alors il y a des millions de gens qui rentrent dans le pays, ce qui est faux. Ce qui est faux, puisqu'on n'a jamais autant arrêté que sous Joe Biden. Maintenant, politique plus humaine, il y a quand même des ratés, notamment une volte-face qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est sur les réfugiés. Il avait annoncé qu'il monterait rapidement à 100 000. On était à 60 000 environ sous Obama, 10 000 sous Trump. Et bien, on est toujours à 10 000 parce que cette question est tellement sensible qu'il a pensé que pour un problème de communication, il fallait faire une volte-face. C'est assez regrettable parce que sur le plan de l'image, peut-être que ça passe vis-à-vis des Républicains, mais que c'est aussi un vrai rétropédalage de la part de Joe Biden, le premier, et assez regrettable parce qu'on parle quand même de gens qui sont en danger dans leur pays. Et c'est vrai que sur une politique démocrate, c'est quelque chose qui, à mon avis, on lui reprochera par la suite.
Ouais, il y a une partie des démocrates très à gauche qui certainement l'attendront au tournant. La nation américaine, on le sait, est très divisé, marqué par l'époque Donald Trump. Est-ce que Joe Biden peut arriver à apaiser les Américains et à les réconcilier, Yannick Mirer ?
On l'a un petit peu dit tout à l'heure, je pense qu'il peut parfaitement y contribuer de par sa personnalité, comme on l'a dit, sa décence et son ton d'apaisement, ses efforts aussi de concilier, parce que c'est quelqu'un qui, ce n'est pas que la rhétorique, c'est quelqu'un qui a l'expérience au Sénat de faire des compromis avec l'autre camp, si je puis dire. Donc je pense qu'il peut y parvenir. Je pense qu'il peut y parvenir par ce qui a été la priorité. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des sujets très enflammables, notamment ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis, alors il y a la race et puis il y a d'autres sujets comme la condition féminine, l'homosexualité, etc., etc. Et il s'est penché plutôt sur l'économie et les emplois. Et donc du coup, ça brise la glace, si je puis dire, parce que ça concerne tout le monde, c'est beaucoup plus pragmatique. Et ça désidéologise, si vous voulez, dans une certaine mesure, le débat, sachant que, ceci étant dit, le défi, je dis ce qu'a dit Jean-Éric tout à l'heure, 100 jours, c'est un peu trop court,
oui,
parce que, évidemment, quand même, le pays est extrêmement polarisé, d'une façon qui est assez difficile pour nous, je pense, de concevoir, parce que même si on a en France une tradition de polarisation aussi forte, d'idéologie forte, mais quand même, il y a une sortie de route du Parti républicain. Le Parti démocrate tient parce qu'il a ce personnage-là à sa tête à la Maison-Blanche qui est un petit peu une version démocrate de président Bush père, si je puis dire, hein, ou même d'Eisenhower, si vous voulez. Enfin bref, il y a quand même cette espèce de colonne vertébrale démocrate-républicain où beaucoup de choses se retrouvent, et notamment ce que vous disiez, c'est-à-dire la nation. Est-ce qu'il va réussir à transformer l'essai ? Ça dépendra aussi quand même de la capacité du Parti républicain, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez besoin aussi de parler à votre opposition. Alors il est fort pour ça, il connaît les gens personnellement, beaucoup de sénateurs, mais l'évolution qui sera celle du Parti républicain, qui a l'œil rivé sur les élections du mois de novembre pour prendre sa revanche, sera un facteur déterminant de la réussite du président lui-même. Ouais. À réconcilier
est-ce,
l'Amérique.
Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un président courageux, hein ? Dès le départ, il a voulu frapper fort sur le climat. Il veut doubler les objectifs américains de réduction des émissions carbone. Quand on sait que l'Amérique est, après la Chine, le plus gros pollueur de la planète et que les Américains, dans leur majorité, ne sont pas très écolos, c'est quand même courageux, ça, Sonia Dridi.
Oui, en tout cas, c'est un président qui, je pense, a de l'audace, qui est vraiment sur tous les fronts et qui veut tenter de faire passer des réformes ambitieuses. Et je pense que ce qu'il a compris aussi, c'est qu'effectivement, la société américaine est extrêmement polarisée, qui va pas forcément réussir à convaincre ses élus républicains qu'il connaît très bien. Et c'est lui qui a toujours été l'homme du compromis. Il a quand même fait passer fait passer très vite hein, ce plan de relance de l'économie. Il est dans l'urgence parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a les élections de mi-mandat à l'automne 2022 et donc là, les démocrates pourraient perdre leur courte majorité au Congrès et donc ça pourrait être encore plus compliqué de faire passer des réformes. Donc il est pressé, on sent qu'il est dans l'urgence, qu'il est fait en effet preuve de courage ou en tout cas d'audace sur beaucoup de dossiers. Et je pense que ce qui est important aussi pour Joe Biden, qui s'est lui-même surnommé Middle Class Joe de la classe moyenne il y a plusieurs années, c'est de sa ligne directrice, je pense, c'est vraiment la classe moyenne. Quand il parle du climat, il n'oublie pas de parler des travailleurs, de l'emploi. Quand il parle de politique internationale, il parle aussi de la classe moyenne. C'est vraiment sa priorité et c'est en tentant finalement de satisfaire cette classe moyenne qu'il va aussi tenter d'apaiser un peu cette polarisation, ces clivages. Parce que, par exemple, sur le plan des infrastructures, selon un récent sondage, il y a 21% des républicains qui approuvent ces propositions, qui vont en partie changer leur quotidien. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un début sur la vaccination, sur son plan pandémie. Il y a 64% des Américains qui approuvent sa gestion de la pandémie. Donc, il arrive quand même apaiser certains clivages. Mais, effectivement, on a un parti démocrate qui est en plus complètement désinhibé depuis Donald Trump. Et là, c'est encore tôt et je pense qu'il va faire face à plusieurs obstacles dans les prochains mois.
Jean-Éric Branard.
Oui, ce qu'il faut comprendre pour l'auditeur français, c'est que Joe Biden est un homme du centre. Il devait d'abord rassurer son aile gauche qui pouvait lui causer des problèmes. Il a donc agi pendant 15 jours avec des décrets. On a vu beaucoup de décrets, on n'a pas compris. C'était quasiment plus que Trump, alors que Trump n'agissait que par décret. Dans un deuxième temps, il a fait avancer ses propres lois personnelles, celles qui lui tenaient à cœur et qui étaient importantes pour le pays. Nick Mirror l'a longuement expliqué tout à l'heure sur le plan économique. Dans un troisième temps, on va retrouver le Joe Biden qui avance par petites touche avec le compromis, comme ça a été également dit tout à l'heure. Et c'est ça où c'est là où ça va devenir très intéressant pour la reconstruction du pays et le rapprochement des points de vue, parce qu'il va demander à l'autre camp de venir s'investir sur effectivement des sujets qui ne sont pas idéologisés, je reprends le barbarisme qui m'a plu.
Il y a un sujet qui est typiquement idéologisé, c'est celui des armes. Et là-dessus,
armes,
alors, est-ce qu'il est prêt à prendre des risques ?
C'est le grand drame américain. Écoutez, il y a cet amendement, il faut comprendre. Un amendement, c'est un ajout à la Constitution. Pour le changer, c'est très compliqué. Il faut 2/3 de chaque chambre et 3/4 des États qui le ratifient. Ça n'arrivera jamais.
Donc quand il dit qu'il veut bannir les fusils d'assaut...
Les fusils d'assaut, il peut le faire. Parce qu'il l'a déjà fait en 1994 par une loi. Mais c'était une loi qui ne durait que 10 ans et qui est donc tombée en 2004. Mais il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas interdire les armes. Mais ce n'est pas la question des armes qui bloque les Républicains. C'est la question de la liberté d'avoir une arme. C'est la liberté qu'il faut retenir dans cette dimension-là.
Toujours
et qui bloque complètement parce que les démocrates ne voient pas la liberté, ils voient les armes. À partir du moment où on ne voit pas la même chose, forcément, on ne peut pas se parler.
Je voudrais qu'on évoque quand même, malheureusement, c'est toujours trop court, qu'on évoque l'international. Président de la première puissance mondiale, très attendu sur le front diplomatique. Est-ce qu'il est à rebours de l'isolationnisme trumpiste, Yannick Mirror ?
Non, il n'est pas à rebours de l'isolationnisme trumpiste, mais en revanche, il a repris ce qui était l'héritage le plus intéressant de la présidence Trump, c'est-à-dire une espèce de réveil de l'Amérique, et qui a d'ailleurs eu des répercussions chez nous, face au défi chinois et ce que le défi chinois représente. Alors, ce n'était pas tout à fait structuré du côté de M. Trump, c'était assez sanguin, ça devient beaucoup plus structuré, méthodique du côté de M. Biden. Mais sans le dire, il s'inscrit quand même dans la même ligne. Et il a fait une chose, Sonia vient de le dire tout à l'heure, mais il faut reprendre la chose, c'est ça qui, je pense, est important, parce que ça nous explique en fait tout le positionnement de Joe Biden au plan politique. C'est un homme qui a bientôt 80 ans, on l'a dit, qui a une longue expérience, qui connaît tout, en dessous, à droite, à gauche, etc. Et je pense que les défis de son pays aujourd'hui rencontrent ses propres convictions les plus intimes depuis toujours, ce qu'il est, c'est-à-dire Amtrak Joe, Middle Class Joe, ce que vous voudrez, l'homme décent, l'homme de la classe moyenne. C'est cette classe moyenne qui a souffert de la mondialisation, ainsi que les classes populaires, les cols bleus américains, c'est de là qu'il vient. Il a bien compris ce qui n'avait pas été expliqué, ni par les uns ni par les autres, depuis tant d'années, qui s'écharpe autour du libre-échange, que le défi international de la Chine était l'inverse du miroir des défis sociaux américains. C'est-à-dire que pour relancer la croissance et les emplois aux États-Unis, il faut donc réindustrialiser, réinvestir dans la performance américaine pour l'avenir. Et le grand défi qui est posé au plan international là-dessus, c'est la Chine. Donc il a lié les deux.
Et ben moi, je crois qu'il va falloir que vous reveniez bientôt, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. C'était passionnant. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat instructif, cette plongée au cœur des États-Unis. Merci beaucoup.
Europe 1. Isabelle Millet.
Restez avec nous dans un instant, on va ouvrir les archives d'Europe 1, on va remonter jusqu'en 1969. 28 avril 1969, jour de la démission du général de Gaulle. À tout de suite. Et dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors avec vous ce soir Jean-Rémy, on retourne au 28 avril 1969, la démission du général de Gaulle, le premier président de la 5e République, quitte le pouvoir après avoir perdu un référendum.
Oui, il y a 52 ans, le général de Gaulle mettait à exécution la menace qu'il avait proférée quelques jours auparavant lors d'une allocution à la télévision.
Si je suis désavoué, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Il parle d'un référendum qui officiellement ne portait que sur la création de régions et la rénovation du Sénat. Mais le président, au pouvoir depuis 11 ans, en fait un plébiscite pour ou contre sa personne. Le non l'emporte à 52,4% et provoque donc le départ du Grand Charles le 28 avril.
Mais pourquoi en avait-il fait un plébiscite ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter quelques mois auparavant, mai 68.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang.
Voilà, reportage Europe 1 sur les barricades du quartier latin, situation politique explosive. Et pour reprendre la main, le général de Gaulle promet notamment un référendum sur, dit-il, la mutation de la société française. Un référendum qui tourne donc au plébiscite. L'opposition appelle à voter contre. Même dans son propre camp, de Gaulle ne compte pas que des soutiens, d'où cette courte victoire du non.
Et alors, quelles sont les réactions au moment de cette démission ?
Eh bien, la démission, elle était attendue, mais le général de Gaulle ne viendra pas l'annoncer lui-même. C'est son ministre chargé de l'information, Joël Le Teul, qui l'annoncera quelques heures plus tard.
Le général de Gaulle a rendu public le communiqué suivant. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi.
La classe politique est saisie par cette nouvelle donne. Immédiatement se pose la question de la succession du général, comme le veut la Constitution. C'est le président du Sénat qui prend l'intérim. À peine en place, Alain Poher se retrouve contraint de préciser ses intentions.
Pour l'instant, j'exerce les fonctions qui sont les miennes, c'est-à-dire je suis chargé de l'intérim de la présidence de la République. On annonce que je serai candidat. Pour ma part, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un combat de boxe, une élection. C'est quelque chose de très sérieux, surtout quand on doit être candidat à la présidence de la République.
Et candidat, il le sera. Candidat malheureux, puisqu'il perd face à Georges Pompidou en 69. Il faut dire que Pompidou avait préparé le terrain depuis plusieurs mois. Assez habilement, il s'était présenté comme celui qui comblerait le vide politique laissé par le général. Parmi ses soutiens, on compte son ancien ministre des Finances, un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui, lui, n'avait pas appelé à voter oui au référendum et qui, sans surprise, appelle à voter Pompidou dès le soir du 28 avril.
La France a besoin d'une candidature d'apaisement pour prendre le relais d'un homme d'exception. Il faut un homme d'expérience.
Alors l'homme d'expérience et l'homme d'exception, attention, ça n'est pas VGE, c'est bien Pompidou. À peine un mois et demi après la démission de De Gaulle, eh bien Pompidou est élu président avec 58,2% des voix.
Alors pour en revenir à De Gaulle, il démissionne donc le 28 avril et on le retrouve à Colombey.
Colombey les deux églises, en Haute-Marne, la maison familiale du général. Reportage Europe 1, Maurice Bruzek.
Le général De Gaulle est presque redevenu un simple citoyen. L'administration lui enlève un à un ses petits avantages de président de la République. Sa ligne directe de téléphone avec Paris lui a été enlevée. Ce matin,
voilà, Colombey, où il vivra reclus après un séjour en Irlande pendant la campagne pour sa succession. Colombey, où il écrira une partie de ses mémoires. Colombey, où le général de Gaulle s'éteindra 18 mois plus tard, en novembre 1970.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau de nous avoir fait revivre ce soir sur Europe 1 cet épisode de notre histoire.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce et puis place au foot, bien sûr. Grande soirée sur Europe 1 avec vous, Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Isabelle. Avec l'hymne de la Ligue des Champions, comme à chaque fois. Grosse soirée effectivement avec les demi-finales de la Ligue des Champions. Demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. C'est de plus en plus sérieux pour les Parisiens. On suivra le match en intégralité. On vous accompagne jusqu'à 23h30. Nos envoyés spéciaux sont au Parc des Princes. Et les débats, l'analyse en direct avec nos experts Jimmy Algerino, Guy Roux, Nabil Djellit, Laurent Fournier. On aura même Philippe Auclair, notre correspondant à Londres. Toutes les informations et l'intensité de cette rencontre de Ligue des Champions en direct sur Europe 1.
Et moi je file enfiler mon maillot. Je vous souhaite une très très belle soirée foot sur Europe 1. Allez Paris, je vous retrouve demain dès 18h. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.